Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 20 janvier 1987.
Extérieur. ce qu'est le don de sagesse et le don d'intelligence. C'est à l'intérieur de l'amour, et c'est dans l'amour et dans la plénitude de l'amour que l'intelligence est toute reprise. Je ne dis pas la raison, et c'est pour ça qu'on confond tout le temps les deux. On confond intelligence et raison. Alors la raison est extrinsèque. Dieu a séparé. Or Dieu a uni profondément l'intelligence et l'amour. C'est l'orgueil qui sépare. Et Dieu a uni profondément l'intelligence et l'amour. Et le don d'intelligence nous le montre bien. Eh bien, je crois, voyez, que dans Saint Jean, quand il dit que, quand Saint Thomas nous dit que la qualité première de Saint Jean, c'est la perspicacité de l'intelligence, c'est un saint qui dit ça à l'égard d'un autre saint. Le mépris de l'intelligence n'a jamais sanctifié quelqu'un. Jamais. Et considérer le développement de l'intelligence, je ne dis pas de la raison, hein, comprenez bien. Considérer que le développement de l'intelligence est secondaire et pas essentiel, je crois que c'est se mettre en dehors de l'Église catholique. Je crois. Au bout d'un certain temps, on aboutira, vous savez bien, ça a existé. Il faut y penser pendant la semaine de l'unité. Ça a existé. On a considéré la foi comme un sentiment, comme une expérience affective. Et l'Église est revenue en disant que la foi est une adhésion de l'intelligence. C'est une adhésion de l'intelligence. Vatican I. Et qu'il n'y a pas de contemplation et donc de cœur profond sans que la foi soit présente et par le fait même sans que l'intelligence soit présente. Saint Thomas définit toujours la contemplation par un regard. C'est un regard. Un regard, c'est quand même l'intelligence au service de l'amour. Que ce soit difficile, je comprends très bien. C'est difficile, c'est sûr. Mais c'est grand. Vous savez bien que l'espérance aime les biens ardus. Bien, la contemplation est un bien ardu. Et on doit tout le temps se le dire. C'est un bien qui nous dépasse infiniment. Alors, je crois que c'est bien ce que Saint Jean veut nous faire comprendre avec cette leçon de théologie donnée par Jésus à Nicodème. C'est quand même le premier enseignement du Christ réservé à Nicodème. Jésus n'a pas renvoyé Nicodème en disant « Espèce d'intellectuel, va t'en te coucher. » Moi, je suis venu pour les petits. Je suis venu pour les pauvres. Il est venu pour les pauvres. C'est très vrai. Il est venu pour les petits. C'est très vrai. Mais Nicodème fait partie de ces petits, de ces pauvres. Un vrai théologien. Je crois qu'il faut être très attentif à ça, hein. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de laisser tomber tous les efforts de l'intelligence. C'est trop facile. Le Saint-Père sait trop bien combien, de fait, c'est cet abandon philosophie profonde, d'une métaphysique qui a été source de ce fléchissement terrible au plan théologique et par le fait même aussi de la contemplation. Moi, ça m'impressionne beaucoup quand le renouveau de l'Église au point de vue contemplatif, le Père Amer l'a dit ouvertement, hein, en disant que c'est Bethléem. ce renouveau contemplatif a un tel sens et un tel besoin de ce que représente le don de l'intelligence à Dieu. Dieu aime les brebis grasses. Et donc, il faut donner une intelligence bien faite à Dieu. Si vous donnez une intelligence rabougrie à Dieu, ça ne lui fait pas plaisir parce que c'est pas un très beau ton. Tandis que si vous donnez une intelligence qui cherche la vérité, une intelligence qui vraiment recherche pleinement la vérité constamment, alors ça, c'est un don merveilleux. Oui. On ferait de la philosophie uniquement pour l'offrir à Jésus, ce que font les petites sœurs de Bethléem. Pour offrir une intelligence bien faite, pour que la graisse brûlée soit agréable à Dieu. Ça, c'est important pour nous le rappeler. Alors, cet entretien de Jésus avec Nicodème, la leçon de théologie dans ce qu'elle a de plus fort. Et d'une certaine manière, tout est contenu là-dedans. Je crois que c'est là où on découvre ce que saint Thomas nous dit, la perspicacité de l'intelligence. Jean, la perspicacité de l'intelligence. Pour Jésus. Pour le Père. Cette perspicacité de l'intelligence, c'est de comprendre la grandeur de l'amour. De comprendre que l'amour passe devant, mais que l'amour ne méprise pas l'intelligence. C'est un faux amour qui méprise l'intelligence. C'est l'amour romantique. Donc c'est un faux amour. L'amour romantique refuse l'intelligence, ça c'est très vrai. Mais le véritable amour ne refuse jamais l'intelligence parce qu'il sait que c'est à partir de cet amour qu'il y aura la vision béatifique. Et l'intelligence est présente dans la vision béatifique. Et ce sera l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et le véritable amour fait que l'intelligence est au service de celui qu'on aime, au service de celui qui est le bien-aimé, pour mieux le connaître. La perspicacité de l'intelligence est une intelligence qui va directement au but. Donc, la recherche de la vérité. La vérité, elle n'est que dans l'intelligence, elle n'est pas dans la raison. Elle n'est que dans l'intelligence, faut pas l'oublier. La vérité est le bien de l'intelligence. Et le jour où on a confondu intelligence et raison, il n'y a plus de vérité. Parce que la raison est relative. Tandis que l'intelligence cherche l'absolu. C'est toute la différence. On voit ça admirablement ici, et Jean était témoin. Je pense qu'il a compris. L'Esprit Saint a dû lui rappeler ça dans une réminiscence extraordinaire. Parce que, je ne sais pas, où il a peut-être été, c'est très possible. Parce que Jean n'était sûrement pas bête. Il avait sans doute une intelligence extraordinairement pénétrante. Quand il a assisté à cette leçon de théologie. En disciple de Jésus, celui qui avait été auprès de Jean-Baptiste. Évidemment, Jean-Baptiste ne devait pas donner beaucoup de théologie, puisqu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'était une voix qui ne méprisait pas l'intelligence. Pour être davantage la voix. Alors, on voit bien comment Jean a dû comprendre cette chose inouïe du mystère de la grâce. C'est le mystère de la grâce qui est montré là. C'est ça, le cœur de toute la théologie. C'est de montrer ce que c'est que la grâce. Puisque tout le mystère de la prédestination, c'est le mystère de la grâce. Toute la théologie pratique, l'économie divine, c'est le mystère de la grâce. l'intelligence est bonne, le cœur profond risque de confondre l'accidentel et l'essentiel. Vous savez bien, c'est ce qui arrive tout le temps du côté affectif. S'il n'y a pas l'intelligence qui est là pour rectifier, et la foi et le don d'intelligence, parce que c'est ça que fait la rectification profonde du cœur profond. C'est là où la rectification se fait dans le cœur profond. Parce que le cœur profond n'est pas rectifié par lui-même. C'est pas parce qu'il est profond qu'il est droit. C'est parce qu'il est amour divin. Et l'amour divin implique la foi. Et l'amour divin implique le don d'intelligence. Et l'amour divin veut la théologie. Jésus va directement, hein, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pas une salutation, ça. C'est comme si Jésus dit, mais écoutez, entre nous, allons directement au but, quoi. Tu viens pourquoi ? Jésus le sait. Il y a quelque chose que Nicodème n'a pas vu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Il y a une rectification profonde qui ne s'est pas faite en lui. Et comme Jésus a la science infuse, au service de son cœur profond, qui a la science infuse en le Christ, et saint Thomas l'a étudié longuement pour que nous comprenions. Puisque nous sommes sur le modèle de Jésus, nous devons le comprendre par rapport à Jésus, ce que c'est que le corps profond. En vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus montre tout de suite ce que Nicodème oublie, c'est cette naissance d'en haut. Nicodème est très fier. Il est très content de lui parce qu'il est de la race d'Abraham. C'est très bien d'être de la race d'Abraham. Mais ce n'est pas ça qui nous fait naître d'en haut. Parce que Abraham, il a reçu la foi d'en haut. Mais il n'a pas transmis la foi à tous ceux qui descendaient de lui. Il faut que chacun redécouvre la foi. personnel. Et ça, Nicodème l'a un peu oublié, hein. Tout en étant docteur en Israël. Il y a un fléchissement. Et donc une confusion. Et une grosse confusion. Vous savez, c'est comme ceux qui confondent l'amour humain et l'amour divin. On dit l'amour humain, mais c'est la même chose que l'amour divin. Puisque tout amour vient de Dieu. Tout amour vient de Dieu, mais tout amour ne remonte pas à Dieu. Et l'amour remonte à Dieu selon des paliers différents. Confondre les deux naissances, c'est confondre l'amour humain à l'amour divin. Et ça, c'est capital. Et on comprend très bien, perspicacité de l'intelligence, c'est de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce discernement profond. En vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et renaître? Il comprend tout matériellement, que voulez-vous, tout en étant théologien, tout en étant docteur en Israël. Ça arrive. Les théologiens qui comprennent tout matériellement, qui comprennent tout psychologiquement, sociologiquement, historiquement, c'est comprendre matériellement selon la cause matérielle, qui est peut-être très très nuancée, mais qui reste la cause matérielle, alors que le théologien doit être l'homme de la finalité. Naître d'en haut, c'est naître pour Dieu et c'est naître de Dieu. Donc on voit très bien cette objection de Nicodème. Il est très déçu, Nicodème, hein, que Jésus dise ça à un homme aussi intelligent que lui. Et Jésus dit quelque chose d'absolument fondamental. Mais c'est ce fondamental qu'on oublie trop facilement. Parce qu'on croit qu'on est beaucoup plus loin. Et c'est ce fondamental qu'on a toujours besoin de reprendre. Toujours besoin de reprendre. Parce que c'est ce qu'on oublie le plus. En vérité, répondit Jésus, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il reprend devant le scandale, Nicodème, il reprend, il réaffirme pour bien montrer que c'est cela qu'il veut dire, naître d'en haut. Alors comme il est plein de miséricorde, il va relever la confusion. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et sa voix tu l'entends et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. C'est admirable cette réponse de Jésus parce qu'elle contient tout. Elle met au service de la parole de Dieu l'intelligence. C'est la naissance de la théologie, vous voyez là, en terre chrétienne. Qu'est-ce que fait l'intelligence? Le propre de l'intelligence, c'est de distinguer. Il faut que l'intelligence ait été très loin dans la vérité pour pouvoir distinguer. On voit tout de suite l'acuité d'une intelligence à la manière dont l'intelligence distingue quand l'intelligence t'en fasse une confusion. C'est l'intelligence qui distingue, c'est pas l'amour. L'amour unit, unifie. Mais quand, justement, on veut unir des choses qui ne peuvent pas être unies, ce sont des confusions. C'est l'intelligence qui distingue. intelligence au service de l'amour. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'esprit, c'est l'intelligence et l'amour. Et puis alors, ensuite, c'est la comparaison. Ne t'étonne pas si je t'ai dit il faut naître, non. Le vent souffle, il veut. Donc la comparaison, c'est encore l'intelligence. Vous voyez ? Distinguer, c'est diviser. C'est l'opération fondamentale de l'intelligence. Et c'est là, on voit tout de suite, on a affaire à quelqu'un d'intelligent. Regardez la manière dont un philosophe distingue, divise. On voit tout de suite. S'il sait distinguer, s'il sait diviser, il faut toujours se rappeler, hein. Il y a deux manières de couper un poulet. Hein, vous commencez à le savoir. Mais voyez toutes les applications, avec un sécateur, et le couper, vraiment, c'est-à-dire prendre les articulations d'une façon vraie. Prendre le sécateur, c'est l'instrument qui remplace l'intelligence. Un imbécile peut prendre un sécateur et couper. Tandis que diviser en regardant les organismes, c'est tout à fait différent. Mais l'analogie à la dialectique, c'est curieux, vous savez. Et ça se trouve partout, ça, elle renvoie très bien. Ce que Jésus dit là, c'est admirable, c'est l'intelligence qui distingue. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Puis ensuite, l'intelligence, elle compare. C'est encore l'analogie. Elle compare. Et toute la théologie est là. Un théologien, c'est celui qui sait diviser, distinguer, et celui qui sait comparer. Parce que l'analogie, c'est ça. Et tout est là. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Pour te donner le modèle. C'est comme ça que Jean est théologien. Pour être plus proche du maître. Et il compare, c'est une comparaison simple, mais elle est très très belle. Le vent souffle où il veut. Et sa voix, le vent ne parle pas, mais il y a la voix du vent. Tu l'entends. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Pensez au désert. Pensez à ces pays où il n'y a pas de nuages. Parce qu'on voit le petit nuage, on n'est qu'à regarder. Tout ça bien, tout ça va. Il porte un petit drapeau, alors vous voyez tout de suite. Hein. Tandis qu'au contraire, quand il n'y en a pas, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. L'intelligence montre que celui qui est né de l'esprit est au-delà de toute comparaison. L'intelligence montre que celui qui est né de l'esprit est né dans la foi. Il entend la voix de l'esprit. Au-delà même de la parole. Il est tout entier, saisi et pris, mais il ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Il ne nous est pas donné, hein. Le jour de notre baptême, une petite carte Michelin avec notre itinéraire en indiquant Saint-Jean-d'Arc. Non. C'est pas indiqué. On ne sait pas où on va. Et celui qui sait trop bien où il va, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Parce que ça prouve que c'est lui qui a choisi. C'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'ordinairement, le Saint-Esprit, il nous conduit les yeux bandés. Il aime ça, que voulez-vous. Pour voir si on est fidèle. Parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on est fidèle, autrement on triche. Et au fond, on s'appuie sur ce qu'on connaît. puis sur ce qu'on est connu, on n'est pas entièrement abandonné. Pour être entièrement abandonné, il faut justement accepter. On ne sait pas où on va. C'est rude, c'est très rude, ça. Voyez ça. L'intelligence au service de la foi, au service de l'amour, reconnaît que l'amour passe devant. Et l'amour aime que ce soit conscient. Quand l'amour passe devant sans conscience, l'amour n'a pas la même liberté. C'est très très beau ça, pour montrer ce que c'est que la grâce. Je crois que ça peut pas être plus beau. De dire que la grâce est une naissance. Voyez bien, c'est une naissance. Une naissance aboutie nécessairement à un vivant. Et le vivant, il a une certaine autonomie de vivant et un certain rythme de vivant. La grâce nous met au-delà de notre vie. Selon la chair et le sang. Oui, ça rejoint admirablement ce qui est dit dans le prologue. C'est pour ça que c'est si étonnant. Et c'est là où on saisit ce que c'est que la grâce, non? Dans la vision joannique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut une naissance nouvelle pour devenir enfant de Dieu. Puisque c'est ça qui est le terme d'une naissance nouvelle. On devient enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom. C'est dans la foi. Qui ne sont pas nés du sang. Ni du vouloir de chair. Ni d'un vouloir d'homme. Mais de Dieu. Trois négations. Pour montrer la transcendance de cette naissance divine. Alors, je vois bien, et on comprend bien, ces deux passages qui montrent ce que c'est que le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce n'est pas dans le prolongement de l'atavisme, heureusement. N'est pas dans le prolongement du vouloir de chair, les instincts, le psychisme. N'est pas dans le prolongement moral, vouloir d'homme. C'est au-delà. Naître dans. C'est pas à cause de nos mérites que nous avons la foi. Nos mérites, vous voyez, les mérites de notre vie honnête et morale. C'est gratuite. C'est ça qui est si merveilleux. Naître dans. Je crois qu'il faut tout le temps venir à cela dans l'oraison. Le mystère de l'oraison consiste à vivre de cette naissance d'en haut. Parce que toute notre vision béatifique consistera à vivre de cette naissance d'en haut. Naître de l'esprit et de l'eau. Alors on montre bien, c'est naître de l'esprit et de l'eau. Alors il s'agit de bien comprendre. Naître d'en haut, c'est naître de l'esprit et de l'eau. Donc, c'est naître de l'esprit. Et de l'eau. L'eau, c'est notre bonne volonté. C'est le serviteur qui sert l'eau. C'est notre bonne volonté. Et on peut dire aussi, l'eau, c'est Marie, dans son mystère de maternité divine. Naître de l'eau et de l'Esprit. L'Esprit Saint ne peut pas nous faire croître dans l'amour sans notre bonne volonté. Sans nous. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. C'est extraordinaire, ça. Il nous a donné la grâce gratuitement. Mais il ne peut pas la faire croître sans notre bonne volonté. Et l'oraison, c'est lorsque nous apportons notre bonne volonté pour croître dans l'amour. raison, c'est le lieu de la croissance de l'amour. C'est pas autre chose que ça. Si on pouvait mesurer avant et après, mais ce serait plus leur raison, justement. On fait une totale confiance. Et c'est le lieu de la croissance de l'amour. Il faut qu'on apporte un désir intense de croître dans l'amour. Un désir qui mobilise tout ce que nous sommes pour croître dans l'amour. Jésus dit cela, Nicodème commence à devenir un petit enfant. Comment cela peut-il se faire? On connaît cette parole. C'est la petite servante de Dieu. C'est la petite enfant de Dieu. Mais Nicodème n'a pas su le dire tout de suite. Il avait à lui mettre un petit peu son grain de sel avant. De théologien. Les théologiens sont comme ça, voulez-vous. Même en face de Dieu, il continue de raisonner. Il continue de raisonner. S'il contemplait un peu plus, il comprendrait. Et son grain de sel, c'est dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors là, il commence à comprendre qu'il ne connaît plus rien. Alors il s'en remet au bon plaisir de Jésus. Et chaque fois qu'on s'humilie en face du Christ, Jésus pousse l'humiliation jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a toujours très peur. C'est presque... On s'attendrait à ce que Jésus dise « Enfin !» Et puis il vient de l'embrasser en lui disant « Mais c'est merveilleux, tu as compris, maintenant tu es un petit enfant, c'est merveilleux. » À partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. Pas du tout. Jésus ne dit pas ça du tout. Tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas cela. Tous les docteurs d'Israël reçoivent cette leçon du Christ. Ils ignorent l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la naissance d'en haut. Et non pas naître d'Abraham. Et ça continue, ce qui est de mieux. Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. Mais c'est invraisemblable. Abraham a été justifié par la foi. Et on est descendant d'Abraham dans la mesure même où on a la foi. Et plus on a la foi, plus on est descendant d'Abraham. Parce que c'est ça la naissance d'en haut. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons. Et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. C'est de ce que nous savons que nous parlons. Jésus parle ici. Connaître. Et dit pas, c'est de ce que nous aimons que nous témoignons. C'est de ce que nous savons que nous parlons. Il y a une connaissance dans l'amour. Et une connaissance nécessaire dans l'amour. Pour pouvoir témoigner. Témoigne de la vérité. Nous savons, et de ce que nous savons que nous parlons, et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. C'est très rude comme correction. Jésus corrige Nicodème. C'est toute la caste des docteurs en Israël. C'est toute la synagogue que Jésus ici est en train de corriger. Nicodème fait partie d'eux et c'est pour ça qu'il reçoit. Il reçoit la correction pour eux tous. C'est une correction très très forte. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons. Donc il devrait être tout de suite, être le tout petit enfant qui écoute. Si lorsque je vous dis les choses de la terre, vous ne croyez pas, comment Donc si je vous dis les choses du ciel, les choses de la terre, c'est les signes que Jésus donne. Donc il leur reproche de ne pas être assez attentif aux signes. Et nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Après avoir rappelé l'exigence de la grâce, Jésus montre la source de la grâce. Et c'est ça qui est si extraordinaire. La source de la grâce, c'est l'Esprit Saint, c'est l'eau. Il faut naître de l'Esprit et de l'eau. Et la source de la grâce, c'est aussi Jésus. Et nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jésus se présente. Ce que Nicodème ne savait pas. De même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vérité. Tout le mystère de la rédemption. Tout le mystère du salut. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il est la vie éternelle. Alors vous voyez, la source de toute grâce, c'est le cœur blessé de Jésus. C'est le mystère de la rédemption. Et la source de toute grâce, à travers le cœur de Jésus, c'est l'amour du Père pour le monde. Dieu en effet a tant aimé le monde. C'est très très fort pour comprendre le mystère de la croix. Le mystère de la croix manifeste cet amour du Père pour le monde. Et c'est à travers cet amour qu'on doit comprendre le mystère de la rédemption et le mystère du salut des hommes. Et Jésus va continuer son enseignement. Vous voyez comment de la grâce on remonte à la source de la grâce. Le mystère de la rédemption qui implique le mystère de l'incarnation. Et le mystère de la rédemption de faire monter à l'amour du Père. Tout y est. Alors Jésus va ajouter, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas voulu croire en le nom de l'unique Fils de Dieu. Tel est le jugement, le discernement, krinein. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leur œuvre était mauvaise. Tout homme, en effet, qui commet le mal déteste la lumière. Et ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient vers la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont opérées en Dieu. Jésus montre le grand mystère du refus de la lumière, le grand mystère du refus de l'amour, le grand mystère du péché. Et si vous êtes attentif, c'est vraiment une leçon de théologie qui contient toute la théologie. C'est ça qui est admirable. Toute la somme théologique de saint Thomas provient de ça. Alors, c'est admirable en une page. Et quelque chose de simple, mais qui va très loin. Nous le saisissons mal, hein. Il faut revenir 100 fois tous les jours à ce texte. Entrer et toute la théologie est là. Toute la théologie est là. Après avoir montré la source du salut, après avoir proclamé l'amour du Père pour les hommes, Jésus montre comment le péché a pénétré. Le discernement le voici, le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. On ne préfère pas les ténèbres à la lumière, à moins d'être déjà complètement vicié. Alors comment ça se fait ? Jésus précise, car leur œuvre était mauvaise. préfet, ce qui vient de nous. Une mère trouve toujours que son petit enfant, c'est le plus beau de tous les petits enfants. Et on trouve toujours que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. C'est pour ça qu'il faut faire grande attention. Tout ce qu'on fait doit être immédiatement offert à Dieu. Autrement, on s'enferme dans son œuvre. Et quand on s'enferme dans son œuvre, on préfère les ténèbres à la lumière. Car leur œuvre était mauvaise. Quand on préfère son œuvre à tout le reste, l'œuvre devient mauvaise. Parce que c'est l'orgueil. Elle est le fruit de l'orgueil. C'est extraordinaire, ça. Hein? C'est affirmé. Là, on touche ce que c'est que l'orgueil. Hein? Et on touche comment l'orgueil s'oppose à l'amour et s'oppose à la lumière. Tout homme, en effet, qui commet le mal déteste la lumière. Donc celui qui fait le mal, s'il fait des œuvres mauvaises, il déteste la lumière et ne vient pas vers la lumière. Il n'est plus attiré vers la lumière. Pourquoi ? De peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Il n'a pas envie du tout qu'on dise que ses œuvres sont mauvaises. Donc il s'enferme dans ses œuvres, dans sa coquille. Mais celui qui pratique la vérité, pratiquer la vérité, celui qui aime la vérité, celui qui pratique la vérité, qui vit avec ce souci de conformité constant de sa volonté avec la volonté humaine, c'est ça qui l'intéresse, c'est la recherche de la vérité, de façon plénière. Mais celui qui pratique la vérité vient vers la lumière, est attiré vers la lumière, pour qu'il soit manifeste, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont opérées en Dieu. Alors, comprenez, à partir de là, l'amour de Jean pour la lumière, pour la vérité, pour la théologie. Comment Jésus par là éveille l'intelligence de Jean pour qu'elle soit mise totalement au service de l'amour. Et que Jean découvre alors cette gratuité absolue de cette naissance à la vie.